question d'aujourd'hui. Avec Mario Barr.
Bienvenue à Question d'aujourd'hui, très heureux de vous accueillir pour cette émission qui vous est présentée par l'Office de catéchèse du Québec en collaboration avec Radio-VM et Radio-Galilée. Aujourd'hui, nous allons poser une très grande question, une question qui fera peut-être peur à certains auditeurs, à certaines auditrices qui vont se dire « mais ma foi, où sommes-nous? » Alors que je croyais être dans une radio catholique, une radio spirituelle, une radio chrétienne, je me retrouve à poser une question, à entendre une question, ou en tout cas une affirmation qui n'est pas, qui ne met pas à l'aise. C'est une affirmation qui va être développée par Martin Belle-Rose, qui est directeur de l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal. Il a également un diplôme à la Pontificia Xavieriana à Bogota, en Colombie, spécialisé en théologie de la migration. Martin Belle-Rose est avec nous et donnera une conférence sur le thème « Christianisme, religion de la sortie de la religion » ce jeudi 23 janvier au Centre culturel chrétien de Montréal. Martin Belle-Rose, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'accepter l'invitation.
Merci beaucoup, Mario, de l'invitation.
Martin, c'est intéressant comme question, mais c'est une question également qui fait peur. Et c'est une question qui, je vais simplement le mettre en parenthèse, là, n'est pas nouvelle. Jean Delumeau se prononçait là-dessus. Jean Delumeau, qui est décédé le 13 janvier dernier, est le grand historien de l'histoire des religions, du fait des religieux. Il disait, on lui posait justement la question, hein, comment voyait-il l'avenir du christianisme il y a 4 ans, le 25 février 2016, un article publié dans Le Monde. Sur le web, vous trouverez très facilement si vous tapez Le Monde, Jean Delumeau. Et on lui posait la question, le christianisme est-il à bout de souffle? Il répondait « Je ne crois ni à la mort du christianisme, ni à la mort de la religion. » Et là, la question ou l'affirmation que l'on pose, Martin Belle-Rose, pour cette conférence que vous donnerez le 23 janvier, c'est « Christianisme, religion de la sortie de la religion ». Qu'est-ce que ça veut dire?
Ouais. En partant, c'est ni la mort de la religion, ni la mort du christianisme. L'expression vient de Marcel Gauchet.
D'accord.
Dans les années 80, il avait écrit sur un livre sur le désenchantement du monde. Bon, il avait pris la thématique de Durkheim un peu, là. Puis, il avait développé cette idée-là. Faut partir de sa définition d'abord de la religion. Pour Marcel Gauchet, religion se définit comme étant hétéronomie, c'est-à-dire là où les êtres humains vont s'organiser selon des dictats qui sont extérieurs à eux-mêmes, sont selon des dictats qui viennent des dieux, de Dieu, des divinités, des ancêtres, etc., mais qui sont extérieurs à l'humanité. Donc, en fait, il faudrait voir, parce que quand on dit le christianisme et la religion de la sortie de la religion, il y a déjà un non-sens là-dedans, parce qu'on peut pas être la négation de soi-même.
Oui.
Donc, il y a nécessairement deux définitions à religion dans cette expression-là. Une qui est hétéronomie, et l'autre, il faudrait la traduire par expérience religieuse. En fait, ce qu'il faudrait dire, c'est le christianisme et l'expérience religieuse de la sortie de l'hétéronomie. Et là, déjà, ça devient plus clair.
Il y a plus de sens là-dedans, parce qu'effectivement, le christianisme nous fait sortir de la dictature, d'un système dictatorial. Vous parliez de dictats là, qui viennent de l'extérieur. En fait, c'est une religion qui nous permet d'entrer à l'intérieur de soi, dans un certain sens.
Oui, il y a une personnalisation de l'expérience religieuse, très certainement. L'idée vient aussi encore une fois de Marcel Gauchet, là où lui, il va présenter la figure de Jésus comme étant un messie à l'envers, c'est-à-dire au moment où on attendait quelqu'un qui allait venir, qui allait être roi, Christ, hein. Christ, en fait, Christ et Messie, c'est la même chose. Hein.
Expliquez-le peut-être pour les gens qui ne sont pas habitués.
Christ, c'est la traduction grecque ou c'est le mot grec dérivé en français. Messie, c'est le mot hébreu dérivé en français. Mais les deux veulent dire le oint, le roi. Celui qui est le oint dans le sens qui a reçu une onction. Une onction royale. Donc, évidemment, la personne de Jésus, Il y a quelque chose qui marche pas avec ça. Ce qu'on en connaît, en tout cas. Ce qu'on a transmis comme témoignage, comme expérience, témoignage d'expérience avec Jésus, c'est certainement pas un roi au sens politique du terme.
Non.
C'est autre chose. Ça veut pas dire qu'il y a pas une dimension sociopolitique à son message. Pas du tout. Hein, on remet pas ça en cause. Mais c'est pas un roi au sens politique du terme. Non seulement c'est pas un roi, mais celui qui est devenu médiateur de la volonté divine et qui éventuellement va considérer, non pas comme seulement médiateur de la volonté divine pour les êtres humains, mais lui-même, l'incarnation de la volonté divine dans le monde, l'incarnation de Dieu lui-même dans le monde, va être non seulement dans la sphère politique et dans la sphère royale, mais en dehors de tout ça, et même parmi les classes les plus défavorisées de son époque. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui apparaît avec Jésus, c'est que ce que Dieu veut, ce que Dieu transmet comme message à l'humanité, ne passe pas par les mécanismes traditionnels d'interprétation de la volonté des dieux.
D'accord.
Donc, on sort de ces schémas-là. Jésus devient, le porte-parole de cette volonté divine-là qui est en dehors du cadre de l'État, en dehors du cadre de la structure religieuse.
C'est intéressant ce que vous dites dans la mesure où, dans l'Antiquité, les historiens pourront infirmer ou confirmer ce que je dis, mais on assistait à un retour, finalement, d'un système un peu plus dictatorial. On avait les sénateurs à Rome, qui étaient quand même déjà un système un peu plus démocratique que ce qu'on avait connu peut-être 500 ou 1000 ans auparavant dans des grandes civilisations. Mais on s'est retrouvé quand même avec des dictateurs, finalement, et à la fin de l'Empire romain, ou en tout cas le début de la déchéance de l'Empire romain avec Néron, avec Caligula, tous ces dictateurs ont voulu reprendre un pouvoir très, très personnel et mettre vraiment l'emphase sur leur royauté, dite royauté, en tout cas. Et là, Jésus, lui, est passé dans cette époque-là et a vraiment défait carrément la catégorie royale, finalement. Il l'a déconstruit totalement pour reconstruire quelque chose d'autre.
Oui, bien, sinon Jésus, en tout cas ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont eu une expérience avec le ressuscité.
Expérience ils ont compris réelle. quelque chose d'autre. Et c'est dans ce sens-là donc, que vous dites que le christianisme, en fait, ce sont des traditions, des confessions religieuses qui donc indique une sortie de la religion, une sortie d'une religion dictatoriale, ou en tout cas, j'utilise le mot dictat parce que...
Je parlais de dictat, mais faut pas confondre non plus ce qui est le dictat puis un système dictatorial. C'est-à-dire qu'on pourrait, à la limite, être dans un autre type de système puis encore toujours être en hétéronomie. Les dictatures peuvent se faire au nom d'une démocratie supérieure, peuvent utiliser l'élément démocratique pour s'établir. Ça, c'est déjà autre chose. Un est lié avec l'autre, là. Mais ici, quand on parle de dictat, c'est vraiment où on va orienter notre façon de s'organiser ensemble selon, pas ce que dit un être humain, qui pourrait lui-même être très dictatorial, mais sur des dictats qui viennent d'ailleurs.
Qui viennent d'ailleurs.
Une hétéronomie. Voilà. Donc, c'est opposé à l'autonomie des humains, hein. Évidemment, il y a une opposition à la démocratie, mais on pourrait très bien avoir un système démocratique des dictatures qui émergent. Et ça, c'est autre chose. Mais ici, quand on parle de dictat, c'est vraiment des mandats qui viennent de l'extérieur. Par exemple, dans la Bible, on va voir dans l'Ancien Testament, dans le Pentateuque, dans les codes de loi, par exemple, où il faut prendre soin de la veuve, de l'orphelin et de l'étranger, de l'immigrant. Bon. Les gens vont le faire parce que Dieu a demandé de le faire. Et là, on est encore dans une compréhension, disons, hétéronome des choses. Aujourd'hui, le plus croyant des croyants va pas le faire parce que Dieu lui demande, va pas le faire parce que c'est écrit dans la Bible, il faut absolument obéir, peu importe ce que lui en pense, il faut obéir à ce qu'il dit là. Mais il va le faire parce qu'il a pris conscience de la justice qu'il a. Évidemment, lui, il peut être croyant et se dire, moi, comme croyant, ce que je veux, c'est établir ou participer à l'établissement de la justice sur Terre à partir des réalités dans lesquelles on vit, incarnées dans le monde. Et cette foi-là, hein, la justice qui s'établit par Dieu avec sa médiation, ben, la médiation de la personne humaine, c'est ce à quoi je veux m'engager. Là, on sort d'un régime hétéronome pour embarquer dans une autonomie. La personne peut être croyante, peut être inspirée par sa foi, mais c'est une décision personnelle qui va se prendre. Et aujourd'hui, dans la plupart des confessions chrétiennes, par exemple, on va insister beaucoup sur cette dimension-là, la dimension de prise de décision, la dimension d'option. On va parler, par exemple, en théologie de la libération, de l'option préférentielle pour les pauvres. Donc, c'est des êtres humains qui prennent une option concrète. Chez les chrétiens évangéliques, on va dire, il faut prendre la décision d'être baptisé, il faut prendre la décision de suivre Christ. On a cette décision-là. Chez les catholiques, c'est pas nécessairement au moment du baptême, mais ça va être au moment de la confirmation, où là, c'est le croyant qui prend sa décision de suivre les traces du baptême qui avait été amené par ses parents. Donc, il y a des... on insiste beaucoup sur cette prise de décision-là dans la foi. Évidemment, dans l'histoire du christianisme, l'arrivée des protestantismes va être importante là-dedans. Et puis, l'idée de liberté de conscience, où là, on a à prendre des décisions par rapport à notre foi. C'est pas nécessairement le pouvoir qui va me dire comment je dois penser selon Dieu, mais moi, dans ma relation avec Dieu, dans ma relation spirituelle à Dieu, à travers la prière, à travers un tas de mécanismes qu'on aura développés, Dieu m'envoie de telle façon, et puis, mais je vais prendre personnellement cette décision-là. Ça peut être en consultant ou pas Dieu, mais c'est une décision qui est personnelle. Donc là, on s'en va dans un régime davantage autonome.
Vous êtes toujours à l'écoute de Questions d'aujourd'hui. Ici Mario Barre, très heureux toujours d'être avec vous pour cette émission aujourd'hui qui est consacrée à une grande question ou à une affirmation, finalement. Je ne sais plus si les gens du Centre culturel chrétien de Montréal ont posé la question ou simplement affirmé cette phrase. Je la donne. Christianisme, religion de la sortie de la religion. C'est une conférence qui aura lieu pour les gens de la grande région de Montréal le jeudi 23 janvier à 19h30. Au Centre culturel chrétien de Montréal, qui est au 2715 chemin de la Côte-Sainte-Catherine. Conférence donnée par Martin Bellerose, qui est notre invité aujourd'hui, directeur de l'Institut de pastoral des Dominicains, qui est situé au même endroit. Il détient un diplôme de la Pontificia Xavieriana à Bogota, en Colombie, et il est spécialisé en théologie de la migration. Cette grande question qui est posée, elle est là également dans un contexte où on a vécu depuis 200 ans c'est cette espèce d'annonce de la mort de Dieu. Hein? Et donc, la question peut faire peur ou l'affirmation peut faire peur à certaines personnes. Ce qui est intéressant, ce que vous avez dit juste avant la pause, je réfère à un article que j'ai trouvé une entrevue toujours dans le monde des religions, je crois. Écoutez, j'ai oublié de regarder ma source comme il faut. Je suis vraiment... Là, vous cherchez dans Google le monde et vous cherchez Abdennour Bidar. C'est un philosophe qui a publié « Comment sortir de la religion », mais c'est en 2012. Ça doit se trouver quand même encore dans nos bibliothèques. Et il affirmait dans cette entrevue « Dans cette logique, je ne transmets aucune tradition à mes enfants ». Je ne leur ai pas appris à être musulman, parce qu'il est musulman, lui, de tradition. J'essaie de leur donner une éducation spirituelle post-religieuse avec une question centrale. Qu'est-ce qui, dans l'ensemble de notre monde actuel, conjugué à l'héritage religieux, peut participer à faire mieux émerger, de façon concrète et partagée entre tous, la vie spirituelle de l'homme créateur? Il faut faire feu de tout bois, sacré, profane, tout doit servir à embraser la possibilité spirituelle de l'homme créateur. Or, nous vivons dans une société dissociée. On dissocie le religieux du scientifique, du politique, du profane. Tout cela va secrètement dans la même direction, selon lui. C'est intéressant comme affirmation et ça revient... Bon, il y a peut-être des différences, mais il y a un point sur lequel vous rejoignez, c'est Martin Bellerose, c'est celui de dire... Le christianisme, en tout cas, ou les chrétiens d'aujourd'hui ne font plus des choses parce que Dieu leur dit de le faire et ils vont le faire de manière machinale. Ils le décident. Et c'est quelque chose qui est quand même assez... Est-ce que c'est quelque chose qui est relativement nouveau? Ou bien vous mentionniez le protestantisme qui a vraiment apporté cette nouvelle dimension, dans le fond?
Ben, en fait, quelque chose de nouveau. On parle encore du Nouveau Testament, puis il aurait été écrit il y a environ 2000 ans. Donc, dans ce sens-là, ça peut être assez nouveau. Parce que, comme je le disais un peu plus tôt, c'est que on considère que cette... Que la figure importante de ce processus de sortie de la religion est Jésus-Christ lui-même. Dans le sens où il y a un messie à l'envers, ouais. Déjà, lui, par sa propre condition, il va dissocier communication de Dieu aux êtres humains des mécanismes usuels qui sont des mécanismes qui passent par... mécanismes usuels d'interprétation de la volonté divine qui passent par l'État ou les structures religieuses, les pouvoirs religieux.
D'où la séparation de l'État et du religieux, dans le fond.
En fait, on dirait que la source est là, même si ça n'a pas commencé nécessairement là. Mais oui, il y a une chose, par contre, là où je me distancie de Bidart, c'est... je pense pas qu'on, comme être religieux, comme être croyant, on ait à se dissocier de quelque chose de précis, d'un discours. Il y a une différence entre accepter l'existence des autres discours, puis aussi on peut, qui est une chose, puis qui est tout à fait souhaitable, et c'est ce qu'il faut faire, puis nier sa propre identité religieuse. Ça, c'est autre chose. Oui. Moi, je pense qu'on a à s'affirmer. On a davantage, et précisément parce qu'on est dans ce processus de sortie de la religion, on ne passe pas par des hétéronomies, mais il y a une expérience qui est bien réelle.
Ouais.
On a une expérience à Dieu qui est réelle comme croyant, évidemment, et le croyant a à s'affirmer. Pas à s'imposer, pas à l'imposer aux autres, mais à s'affirmer pour ce qu'il est et à défendre ses positions qui sont inspirées par sa foi dans l'espace public. Ça, c'est le rôle du croyant. C'est aussi sa raison d'être, à mon avis. Donc, on a à s'affirmer davantage comme chrétien, mais aussi avec les variantes qu'on peut avoir selon les confessions chrétiennes à laquelle on appartient ou à laquelle on s'identifie, comme chrétien évangélique, comme chrétien catholique. Et ça, c'est quelque chose d'important et qui a de plus en plus de place. Parce que celui qui va parler au nom de cette foi-là n'est plus maintenant une autorité religieuse. Sinon, les personnes qui vivent cette expérience religieuse-là en prière, et c'est eux qui ont le mandat implicite, le mandat divin, si je peux dire, de faire présent sur la place publique l'option sociale, morale, à laquelle ils croient, et qui a un lien, évidemment, avec le projet de société. Donc, évidemment, là-dedans, on va retrouver, en disant ça, ça veut dire aussi qu'il faut accepter qu'il y aura des discours chrétiens, des discours de foi qui seront très variés, très pluriels, et beaucoup...
Sur lesquels on ne sera pas d'accord, nécessairement.
Sur laquelle on ne sera pas d'accord.
Même en tant que chrétien.
Tout à fait.
Oui.
Donc, on va voir, par exemple, des chrétiens plus à droite qui vont, au nom de leur foi, prendre position contre l'immigration, pour l'avortement, pour la pénalisation de l'avortement, etc. Et d'autres qui, au nom de leur foi, vont prendre position en faveur de l'immigration, pour la défense des droits des femmes, etc. Donc, et c'est possible, il faut accepter cette pluralité-là. Mais en acceptant la pluralité, ça ne veut pas dire nier nos propres positions. Au contraire, on ne respecte pas la pluralité des options sociales, chrétiennes, si nous-mêmes, on n'est pas capable de respecter la nôtre à travers ça.
Martin,
et de l'affirmer.
Oui, ce que vous dites est très fort. Par ailleurs, les chrétiens doivent finalement apprendre aussi à nourrir leur vie spirituelle directement à la source. Parce que là, ce que vous dites, on pourrait tourner facilement dans seulement de l'idéologie. On pourrait devenir des idéologues, on pourrait devenir des gens qui veulent établir une ligne de parti et qui s'en tiennent seulement à ça. Et finalement, le christianisme ne devient plus qu'un accessoire. La vie intérieure, j'imagine, est essentielle, fondamentale, si l'on veut avoir une posture chrétienne qui se tienne.
Quand on parle d'une privatisation de la foi, hein, ce qui se passe dans ce processus de sortie de la religion-là, ça veut dire qu'on développe une relation interpersonnelle à Dieu. Quand on développe cette relation interpersonnelle-là à Dieu, on veut aussi dire que Dieu nous parle à nous-mêmes, comme individu. Et il ne va pas juste passer par des mécanismes qui sont l'Église ou l'autorité ecclésiale, plutôt, ou l'État, pour me dire ce que lui pense. Mm-hmm. Bon, on l'a dans notre relation. Et ça, évidemment, c'est une chose. Puis il faut voir aussi que Dieu fait la même chose avec d'autres personnes. Et nécessairement, il va avoir une pluralité. Et c'est probablement ce qui va éviter le fait qu'on tombe, justement, dans un discours idéologique là, que tu mentionnes, où là, il y a une ligne de parti à suivre, parce que c'est ça la vérité. Bon, en régime hétéronome, où on va filtrer la volonté de Dieu à travers un seul mécanisme, une seule entité qui va tout contrôler pour dire ce que Dieu pense et ce qu'on doit penser quand on croit en Dieu, là, c'est dangereux de tomber dans ce genre d'idéologie-là. Mm-hmm. Mais ce qui va nous préserver de ce contrôle idéologique-là, c'est justement cette relation interpersonnelle-là. Bon, une relation qui, nous, on va comprendre comme se balisant avec le texte biblique, mais aussi dans une relation de prière, en invitant l'Esprit en soi, en nous.
Une relation communautaire également.
Communautaire,
le chrétien ne peut pas se passer de la communauté, sinon il s'éteint, ou en tout cas, il n'est plus tout à fait chrétien. C'est quelque chose qui est inhérent également aux traditions chrétiennes. Donc, la phrase en tant que telle, religion, de la sortie de la religion, est un peu paradoxale également, parce qu'on doit quand même demeurer relié, religare.
On a toujours une place dans l'espace public. C'est un peu le paradoxe qu'en disant que notre relation à Dieu se privatise, ce qui est vrai dans les faits, parce qu'on va développer une relation de prière, une relation vraiment interpersonnelle à Dieu, mais en même temps, plus on la personnalise, puis plus aussi on va se centrer sur l'individu, sur l'expérience individuelle, puis ses droits de l'individu, les droits de l'individu dans la société, puis probablement le droit le plus fondamental de l'individu est le droit de se regrouper avec d'autres individus qui partagent les mêmes options ou qui vont partager les mêmes valeurs ou
liberté de religion, liberté de conscience, liberté. Ce sont des droits d'ailleurs. C'est assez intéressant que vous parliez de ça. Ce sont des droits qui sont actuellement dans plusieurs pays bafoués, menacés ou tout simplement évacués. Je pense à la Corée du Nord, je pense à la Chine, je pense à certaines régions de l'Inde où on vote des lois anti-conversion pour faire en sorte que la société ne devienne qu'une société avec des racines seulement hindoues. Il y a là, en tout cas, tout un défi. Hein? C'est le défi du vivre ensemble, finalement, aussi.
Mm-hmm. Oui. Avec une personnalisation de la relation à Dieu comme ça aussi, on a besoin de pluraliser les sociétés pour que toutes puissent exister. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il y en aura juste une qui aura raison à travers ça, mais c'est de la place aux autres. Puis ça devient inévitable si on veut vraiment développer des relations personnelles riches. Un espace qui permette des relations personnelles riches à Dieu.
En terminant, Martin Bellerose, il nous reste à peine 4 minutes. Est-ce que nous sommes prêts à sortir de la religion tout en y restant, bien sûr? Là, cette phrase-là, on entend qu'elle est un peu paradoxale, mais c'est correct, on vit avec. Est-ce qu'on est prêt à sortir? Est-ce qu'on est prêt à le faire? Ou en tout cas, là, je pose la question aux chrétiens que vous êtes, à la personne qui est également impliquée en Église. Est-ce que vous sentez qu'on est prêt ou sinon, ouais.
Je suis pas sûr que ça se pose en termes d'être prêt ou pas, parce que c'est une réalité qui se passe, ça arrive là. C'est-à-dire
qu'on n'a pas le choix.
L'élément religieux n'est plus hétéronome. Donc, c'est ce qui nous permet de choisir, c'est ce qui a permis à beaucoup de Québécois de choisir de ne pas adhérer à un courant religieux. Et ça, c'est très sain que la situation soit comme ça. Maintenant, la question qui se pose pour le croyant, c'est comment nous, on va se faire présent dans cette société-là, comment on va pouvoir témoigner de notre foi dans cette société-là, en respectant les autres positions, mais en étant aussi respectueux de la nôtre puis de notre expérience. Donc, c'est plus comme ça que se pose la question, à mon avis.
Ouais, okay.
Et est-ce qu'on est prêt à faire ça, à s'affirmer de façon honnête, décente, respectueuse? Bien, ça, la question, chacun a à y répondre, finalement. Mais on voit que certains ne le sont pas, alors que d'autres
n'ont pas de problème
le font.
Avec ça,
mais
ouais.
Je pense que les courants religieux, les dénominations, les églises doivent travailler à former les gens à pouvoir affirmer leur foi dans la société sans l'imposer à tout le monde.
Parce qu'on a le droit d'être fier de ce qu'on est, de ce qu'on fait, de ce qu'on a. C'est un héritage quand même, l'héritage chrétien.
Quand même. Hein? Oui.
je rappelle donc que Martin Bellerose sera en conférence au Centre culturel chrétien de Montréal ce jeudi 23 janvier à 19h30 au 2715 Chemin de la Côte, Sainte-Catherine, métro Université de Montréal pour les gens qui sont dans la grande région de Montréal. Malheureusement pour les gens de la région de Québec, je ne sais pas, peut-être que si vous avez le temps, vous entendez l'émission tôt jeudi matin, eh bien, vous aurez peut-être le temps de vous déplacer vers Montréal pour venir assister à cette conférence qui a pour titre « Christianisme, religion de la sortie de la sortie de la religion ». Et Martin Bellerose nous expliquera ce qu'il veut dire. D'ailleurs, on ne sait plus s'il y a le point d'interrogation, si c'est une affirmation. C'est intéressant, en fait. Je trouve ça plus intéressant.
On le laisse dans l'ambiguïté.
Martin, je dois dire rapidement, en 30 secondes, vous avez beaucoup de programmes à l'Institut pastoral des Dominicains qui s'adressent à qui s'adressent à tout le monde. On est là pour vulgariser la tradition chrétienne, l'Évangile, etc. On est là pour mieux faire comprendre.
Oui, c'est le rôle de l'Institut pastoral, justement, d'avoir un enseignement théologique accessible, mais en même temps de qualité, très rigoureux. C'est des programmes universitaires de premier, deuxième et troisième cycle maintenant. Donc oui, c'est notre objectif.
Alors, on espère en tout cas que les gens vont s'inscrire de manière assez importante parce que je peux témoigner de la qualité il y a plusieurs années maintenant. Je commence à vieillir. En tout cas, bref, Martin. D'ailleurs, on s'est rendu compte qu'on avait le même âge il n'y a pas tellement longtemps et qu'on va tomber dans, eh bien oui, chers auditeurs, auditrices, dans la cinquantaine, donc cette année. Merci encore, Martin Bellerose.
Merci, Marie.
Je rappelle donc qu'il est directeur de l'Institut de pastoral des Dominicains à Montréal. Il a également un diplôme de la Pontificia Xavieriana à Bogota, en Colombie, spécialisé en théologie de la migration. J'espère que cette émission vous a plu. Je vous rappelle qu'elle vous est présentée par l'Office de catéchèse du Québec en collaboration avec Radio-VM et Radio-Galilée. L'Office de catéchèse du Québec reçoit le gracieux soutien de la Fondation canadienne de la vidéo religieuse pour la réalisation de l'émission. Merci beaucoup à notre ami Valérien Fournier qui était aujourd'hui à la régie. Merci à Daniel Fortin et Yannick Caron qui supervisent toute l'opération. Merci également à l'équipe de bureau de l'Office de catéchèse du Québec, en particulier José Richard, qui s'occupe de vous faire connaître les émissions sur le site web de l'Office de catéchèse et sur les réseaux sociaux. Ici Marie Aubard, je vous dis à bientôt.